La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Idée tableau, Descartes, Maritain. Bonjour, idée tableau. Cette formule vient de Maritain, mais elle est déjà énoncée dans une phrase où Descartes dit les idées comme des tableaux. La formule concentrée, idée tableau, avec un trait d'union entre les deux mots, vient de Maritain. Et c'est une manière d'aborder le corps de notre troisième émission sur la critique que Maritain fera de Descartes tout au long de sa vie. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par idée tableau? Eh bien, à la fin de Trois Réformateurs, vous avez une grande note, la note 50, qui nous explique en trois parties comment comprendre le désastre des idées tableaux. Alors, c'est un peu technique, mais nous sommes maintenant un peu préparés pour entrer dans quelque chose de très profond. Descartes écrit dans l'abrégé, qui fait suite aux réponses aux secondes objections, « Par le nom de pensée, je comprends tout ce qui est tellement en nous que nous en sommes immédiatement connaissants. Par le mot de pensée, j'entends tout ce qui se fait en nous, de telle sorte que nous l'apercevons immédiatement par nous-mêmes. C'est pourquoi non seulement entendre, vouloir, imaginer, mais aussi sentir est la même chose ici que penser. » Maritain commente « Ainsi la pensée est définie par la conscience. Disons en termes plus rigoureux que la conscience, qui du moins à titre de conscience concomitante, est bien une propriété de la pensée, mais non pas son essence. Elle devient maintenant son constitutif formel. Et en conséquence, sentir et entendre de soi ne dépassent pas plus la sphère de la conscience de soi-même que vouloir et imaginer, et ne font également que poser le sujet pour lui-même. La pensée elle-même est le seul objet qui soit immédiatement aperçu par elle, et les idées nous font connaître immédiatement non les choses ou les natures, mais notre pensée. Citant Descartes, par le nom d'idée, j'entends cette forme de chacune de nos pensées, par la perception immédiate de laquelle nous avons connaissance de ces mêmes pensées. L'enjeu, c'est quoi? C'est finalement de glisser lentement vers une connaissance qui ne soit pas conceptuelle. L'innéisme, comme vous connaissez maintenant l'expression, c'est avoir des idées innées. L'innéisme de Descartes s'apparente à l'angélisme et du coup écarte l'objet. L'inconvénient, c'est que le sujet lui-même est flou dans sa manière de connaître. Vous le voyez, vous l'avez entendu, entendre, vouloir, imaginer, mais aussi sentir est la même chose ici que penser. Difficile pour un scolastique, difficile pour un maritain héritier de Aristote et de la rigueur et de l'exigence que requiert l'abstraction conceptuelle. Deuxième conséquence, en commentant les principes, chapitre 1, paragraphe 13, notre pensée trouve en soi premièrement les idées de plusieurs choses, écrit Descartes, et pendant qu'elle les contemple simplement et qu'elle n'assure pas qu'il y ait rien hors de soi qui soit semblable à ses idées, et qu'aussi elle ne le nie pas, elle est hors de danger de se méprendre. Commentaire de Maritain. Ainsi, ce qui est contemplé, ce qui est objet d'appréhension, ce sont les idées elles-mêmes. Et la vérité, qui était pour les anciens l'accord avec l'être extramental de la composition mentale entre deux objets de pensée, c'est-à-dire entre deux quidités, devient la ressemblance de tel objet de pensée, c'est-à-dire maintenant de telle idée avec une chose extramentale. Confusion d'importance capitale qui va vicier toute la spéculation post-cartésienne aussi bien du côté de Spinoza que du côté de Hume. Vous l'avez bien vu, ce n'est plus la vérité qu'on contemple, c'est l'idée. Troisième conséquence, on sait que pour Descartes, la perception du sens externe préexige la production d'une image, idée dans le langage cartésien. Mais encore, cette perception n'a pour terme immédiatement atteint que l'idée elle-même, l'affection sensible, laquelle ne représente aucune réalité extramentale qui lui soit semblable. C'est exactement sur le même type que Descartes se représente la sensation et l'intellection, avec cette différence que dans le cas des qualités sensibles, il n'y a pas ressemblance entre la chose actuellement existante et l'idée essentiellement confuse, non exprimable, en une définition purement rationnelle, tandis que dans le cas des objets intelligibles, il y a ressemblance entre la chose actuellement ou possiblement existante et l'idée claire et distincte. Dans un cas comme dans l'autre, ce n'est pas ce qui est, la chose concrète saisie en elle-même par le sens ou la quidité abstraite saisie dans un concept par l'intelligence, c'est l'idée qui est l'objet d'abord saisi, l'objet immédiatement présenté à l'esprit. C'est pour cette raison que on peut parler d'idée tableau. C'est une idée qu'on va contempler pour elle-même, c'est une idée qui n'est plus référée à un réel extrinsèque, et c'est une idée qui va renvoyer le sujet à une sorte de solipsisme. L'inconvénient, nous verrons après la 13e improvisation de Poulenc, ce sera une perte de l'intuition de l'être. L'intuition cartésienne va s'apparenter à celle de l'ange, donc pour percer l'intérieur des objets qu'elle veut connaître. Mais ça n'a rien à voir avec l'intuition de l'être. Et qu'est-ce qui est en jeu? La perte purement et simplement de la métaphysique. C'est le point de vue de Maritain.
La philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Pour Maritain, la plus apparente des ruptures de Descartes, c'est que Descartes taille et sépare là où Thomas rassemble. Formule lapidaire qui nous permet de comprendre la différence entre Thomas et Descartes à partir justement de l'intuition de l'être. L'intuition de l'être est liée à la capacité abstractive de notre intelligence. À partir du moment où cette dernière est gommée, on perd l'intuition de l'être, c'est-à-dire la possibilité d'une métaphysique de l'être. Maritain l'énonce dans Trois Réformateurs. Pour saint Thomas, et c'est une suite logique de la nature abstractive de notre intelligence, le seul objet absolument premier atteint par celle-ci est l'être en général. Et c'est en lui qu'elle résout toutes ses conceptions, apprenant sous la dictée de l'expérience à expliciter les différences contenues en lui. Or, il est trop évident que l'être, qui imbibe toutes choses, n'est l'ennemi d'aucune réalité. Il les accueille toutes. Il est, si j'ose dire, pour toute la faune de la création, pour toutes les formes qui fluent de la poésie de Dieu, si noble soit-elle et si rare, si indigente ou si luxuriante, il est le sein d'Abraham où elle repose. Conséquence de cette vision, c'est de pouvoir souder philosophie et théologie. Maritain conclut, voilà pourquoi si la cervelle d'un thomiste peut être étroite et coriace comme toute cervelle humaine et bien improportionnée à la sagesse qu'il défend, il a néanmoins la consolation de se dire qu'à considérer la doctrine en elle-même, sinon le docteur, saint Thomas, il n'est pas une chose au ciel et sur la terre qui ne se trouve chez soi dans sa théologie. Au contraire, pour Descartes, et c'est une suite logique de son innéisme, la pensée trouve en soi une pluralité d'idées toutes faites, irréductibles, irrésolubles, chacune claire par elle-même, chacune objet d'intuition première, élément intelligible auquel tout doit se réduire de ce que touche le savoir. Ce sont les natures simples qui sont comme des atomes d'évidence et d'intelligibilité. Comme il a supprimé la résolution matérielle de nos concepts dans les choses, Descartes supprime leur résolution formelle dans l'être. Ce qu'introduit ici la révolution cartésienne n'est rien de moins qu'un changement radical dans la notion même de l'intelligibilité et corrélativement dans le type même de l'intellection et de l'explication scientifique. Je propose de vous lire une page de Descartes. Parce que nous commentons Descartes depuis 3 semaines et vous n'avez peut-être pas entendu réellement du texte cartésien qui est admirable. Je vais vous lire un extrait de la deuxième méditation, dite méditation seconde. Les méditations métaphysiques sont d'abord écrites en latin et puis Descartes va les traduire en français. C'est important. Parce que le latin est la langue des doctes, et là, il veut quelque chose que tout le monde peut lire. Et le passage que je vous propose concerne le corps. Nous sommes dans une perspective d'étude du corps. Nous avons fait un beau détour à travers le corps et ce que ça suppose. Et voilà comment Descartes appréhende le corps. Moi donc, à tout le moins, ne suis-je pas quelque chose ? Mais j'ai déjà nié que j'eusse aucun sens ni aucun corps. J'hésite néanmoins, car que s'ensuit-il de là ? Suis-je tellement dépendant du corps et des sens que je ne puisse être sans eux ? Mais je me suis persuadé qu'il n'y avait rien du tout dans le monde, qu'il n'y avait aucun ciel, aucune terre, aucun esprit, ni aucun corps. Ne me suis-je donc pas aussi persuadé que je n'étais point ? Non, certes. J'étais sans doute si je me suis persuadé ou seulement si j'ai pensé quelque chose. Mais il y a un je ne sais quel trompeur très puissant et très rusé qui emploie toute son industrie à me tromper toujours. Il n'y a donc point de doute que je suis s'il me trompe. Et qu'il me trompe tant qu'il voudra, il ne saurait jamais faire que je ne sois rien tant que je penserai être quelque chose, de sorte qu'après y avoir bien pensé et avoir soigneusement examiné toute chose, enfin il faut conclure et tenir pour constant que cette proposition « je suis, j'existe » est nécessairement vraie toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit. Vous avez reconnu le cogito ergo sum, je suis, j'existe, et ce paragraphe du doute qui est, même s'il y a un malin génie qui vient me dire que je n'existe pas, non, non, au moins je peux asseoir cette certitude, le fait de penser peut me permettre de dire je suis, j'existe. Eh bien, le paragraphe qui précède montrait que le corps est rabattu sur l'étendue, c'est-à-dire sur un corps géométrique. Je suppose donc que toutes les choses que je vois sont fausses. Je me persuade que rien n'a jamais été de tout ce que ma mémoire, remplie de mensonges, me représente. Je pense n'avoir aucun sens. Je crois que le corps, la figure, l'étendue, le mouvement et le lieu ne sont que des fictions de mon esprit. Qu'est-ce donc qui pourra être estimé véritable? Peut-être rien autre chose, sinon qu'il n'y a rien au monde de certain. Le doute est universel, il touche tout. Et la question cartésienne, c'est de trouver un point solide, un point sûr, un point où on peut poser le pied, ce qui ne soit pas sur un sol mouvant, pas sur du sable. Et ce point solide, Descartes le trouve dans « je pense, donc je suis, j'existe ». Et même si on me dit que je n'existe pas, le fait de penser est suffisant pour fonder le cogito ergo sum. Je ne vais pas refaire toute la littérature qui s'ensuit de cette position cartésienne. Ce n'est pas simple. Il ne s'agit pas de faire un traité de philosophie maintenant. Il s'agit simplement de comprendre pourquoi Descartes est, enfin, on va dire, l'ennemi numéro un de Maritain, parce qu'il est fondateur de la modernité, mais vous le comprenez tout de suite en voyant ce texte. La relation au corps est une relation extérieure et pas vue à partir de l'acte créateur, pas vue à partir d'un corps finalement que l'on reçoit, comme la vie est quelque chose que l'on reçoit, et l'âme va être pensée par rapport au corps selon la tradition dans laquelle s'inscrit Maritain, qui est la tradition réaliste. La rupture de Descartes, c'est justement de proposer comme approche la science, la mathématique, qui, on va dire, est marquée par Huygens, Galilée, et elle est marquée par quoi? Par la preuve. On peut vérifier ce que l'on voit. Le système de Copernic peut être vérifié, ce n'est plus la Terre qui sera au centre, mais la Terre qui tournera autour du Soleil. Pourquoi? Parce qu'on a des verres concaves et des verres convexes, la technique a avancé, et donc on peut avoir de longues lunettes et vérifier les phases de la Lune, les anneaux de Saturne, les petits satellites de Jupiter, etc., etc. Donc Galilée devient finalement le modèle de la science avec Huygens, avec Descartes, même si la dioptique de Descartes est remise en cause, normal, chaque période évolue, elle reste quand même tributaire d'un paradigme scientifique qui fait que Descartes veut une mathésis universelle. La conséquence, pour conclure sur ces trois semaines à propos de Descartes et de la critique, c'est justement ce projet de mathématiques universelles qui devient science unique et qui est finalement concurrentielle avec la métaphysique. Je crois qu'il faut retenir de ces trois semaines que la métaphysique telle qu'elle revient actuellement, vous avez au Collège de France un retour de la métaphysique dans Claudine Tiercelin qui occupe une chaire de philosophie réaliste. On parle d'une métaphysique qui revient par la philosophie analytique, qui s'oppose à la philosophie continentale que nous représentons. Philosophie analytique, ben vous ouvrez Wittgenstein, Badiou dit que c'est la fin de la philosophie, mais on peut tenir avec Antonia Soulez le contraire, que c'est au contraire une nouvelle forme de métaphysique. Le débat est ouvert, Mais parle-t-on de la même métaphysique que celle héritée de Thomas d'Aquin et d'Aristote, d'une métaphysique réaliste? Maritain tranche et dit que non, si l'on reste tributaire du modèle cartésien de la mathématique. À vrai dire, comme séparée de l'être, notre raison flotte et n'a pas de règle en elle. Les idées claires entendues au sens de Descartes ne fournissent aucun critère consistant. En fait, elles se réduisent à des idées faciles ou aisées à concevoir, et la clarté cartésienne est synonyme de facilité. Aussi bien la science ne doit-elle pas être facile à l'homme comme elle est facile à l'ange? Voilà pourquoi la mathématique devient la science reine et la norme de tout savoir. Partout ailleurs, sous le couvert de cette prétendue rigueur, c'est l'arbitraire qui s'introduit. Suivant une loi d'ironie que nous voyons vérifier tous les jours et dont l'exégèse allemande offrira au XIXe siècle une belle illustration. Sous prétexte, dit Bossuet dans un texte célèbre, qu'il ne faut admettre que ce qu'on entend clairement, ce qui est réduit à certaines bornes est très véritable, chacun se donne la liberté de dire « j'entends ceci et je n'entends pas cela » et sur ce seul fondement, on approuve et on rejette tout ce qu'on veut. Il s'agit de la lettre au marquis d'Allemand du 21 mai 1687. Pratiquement, l'évidence cartésienne devait substituer à la vérité, mesurée sur l'être, la facilité rationnelle et la maniabilité des idées. La philosophie des Lumières, éclairant le ciel aux chandelles de l'encyclopédie, continuera ainsi très naturellement la philosophie des idées claires. Disons qu'en tout cela, l'entendement cartésien revendique indépendance à l'égard de son objet, non seulement à l'égard des choses comme objet du sens, mais à l'égard des choses comme objet de science. Descartes est un dogmatique outré et à ce point de vue, tout le contraire d'un subjectiviste. Mais avec lui, la science humaine, ivre de mathématiques, commence à ne plus se mesurer sur l'objet. Pour se constituer, pour exister comme science, elle ne demande plus à l'objet de lui imposer sa loi. Elle impose à l'objet une mesure et une règle qu'elle croit trouver en elle-même. Ainsi, tandis que la science de l'ange, bien qu'indépendante des choses, ne déforme pas l'objet qu'elle atteint, parce qu'elle l'atteint par une similitude des idées créatrices, cause et mesure de cet objet de son être. La science cartésienne fait violence au réel, pour le réduire au module prédestiné des explications scientifiques. Dès lors, l'intelligence humaine devient législatrice en matière spéculative, elle façonne son objet. On peut dire que la raison cartésienne pratiquait avant la lettre l'apriorisme kantien. Kant, survenant, n'aura qu'à remarquer qu'en bonne logique, un entendement qui façonne ses objets sans les produire dans l'être ne peut avoir pour objet que des phénomènes, non les choses en soi. Le dogmatisme cartésien, après un beau trajet dans l'azur, sera devenu agnosticisme en retombant sur le sol. La plume de Maritain n'empêche pas la solidité conceptuelle, la vue aquiline des choses, mais il a été rejoint par cette exposition dont je vous parlais en 2020 au Guggenheim Museum de New York. À bientôt.